Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres. Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Bonjour Gisèle, bonjour à tous.
Alors une fois n'est pas coutume, nous recevons Patrick Subreville aujourd'hui qui va nous présenter Bismarck. Alors pour moi Bismarck c'était quand même un personnage pas très sympathique. Il avait un uniforme. Moi, je me souviens, sur les livres d'histoire, il avait un uniforme avec un casque à pointe, avec un grand sabre. C'était pour nous... C'est vrai qu'il avait quand même humilié la France en 70, quand même. Enfin, c'était un petit peu de notre faute, quand même. Hein. Donc, c'était quand même particulier. Puis, on avait perdu l'Alsace-Lorraine. Et Patrick, qui vient de faire un livre sur Bismarck... Donc, je me suis dit, un petit livre, oh, c'est bon. Donc, il m'a dit, tu vas le lire et puis tu me diras ce que tu en penses. Eh bien, j'ai fait une grande découverte. Bon, je n'ai pas aimé davantage Bismarck. Je ne suis pas devenue prussienne pour autant. Mais bon, j'ai fait un voyage avec Patrick et c'est assez étonnant. Donc, on va poser des questions à Patrick pour savoir pourquoi il en est venu à parler de Bismarck.
Oui, c'est une vaste question, vaste programme, disait De Gaulle aussi,
oui.
qui craignait Bismarck en même temps, mais
oui.
qui l'admirait, parce qu'il avait su s'arrêter à plusieurs fois. Après une grande bataille contre l'Autriche en 1866, la bataille de Sadova, il aurait pu, au mois de juillet, marcher sur Vienne, par exemple, ou continuer en Europe centrale. Et non, il s'est arrêté tout de suite, parce qu'il savait que s'il avançait, la Russie, l'Autriche et la Grande-Bretagne
allaient se liguer contre...
Et puis la France lui tomber dessus.
Oui. Ce qui se produit en ce moment.
Ça, je n'en sais rien, je n'oserais pas le dire. Donc, déjà, on avait...
parallèle.
C'est très Bismarck, c'est le danger des coalitions, c'était son cauchemar. Parce qu'il faut rappeler pour tout le monde, mais on ne s'en rend pas compte, nous Français, que l'Allemagne est très mal placée, en ce sens
qu'elle tenaille.
Elle est au centre de l'Europe.
Oui.
Nous, on a la chance d'être au bout.
On
n'est baigné pas beaucoup de mer, alors que d'autres n'ont pas cette chance-là. Et donc l'Allemagne a très peu de côtes, finalement. Un petit bout de Baltique,
de
dans le
nord,
à l'est, un petit bout de mer du nord. Alors que nous, Dieu merci, mais on ne s'en rend pas compte, on a beaucoup d'eau. Et puis on a des frontières naturelles aussi.
Avec les montagnes.
Avec les Pyrénées, qui nous barrent de l'Espagne. Ça fait barrage.
Oui.
Il y en a qui ont passé barrage là, ils ont la plaine. Donc la plaine, c'est le boulevard pour envahir. Même maintenant, même aujourd'hui, ça revient. Et puis les Alpes aussi, barrage des montagnes. Même si on peut passer par-dessus avec des engins de plus en plus terrifiants. On y revient un peu finalement. Oui. Et puis la Belgique, là c'est le plat pays, cher à Jacques Brel. Eh bien, c'est la voie des invasions, car c'est très plat.
Non, oui, voilà. Parce qu'ils sont passés par là, les Allemands. Hein.
Il n'y a pas qu'eux.
Oui.
Oh, oui.
Non, mais on ne remonte pas si loin parce qu'on va, on va partir.
Mais à nous, dans le passé, de bien fortifier ce qu'il fallait pour que les leçons du passé nous servent
tout le temps.
Et on s'est couché dessus, on va dire, plus ou moins. Donc, il ne faut pas s'étonner après qu'on ait encore de la visite.
Oui. Alors, qui était Bismarck ?
Alors, Bismarck, oui, les photos de l'histoire, c'est normal. Dans les programmes d'histoire, on parlait de la guerre de 70, qu'on a oubliée, malheureusement, parce que c'est la matrice des deux guerres mondiales.
Les deux guerres mondiales, c'est parce qu'il y a eu la guerre de 70
oui.
qu'il y a eu les deux guerres suivantes.
C'est un peu la guerre, c'est un peu la faute de la France, il faut dire, au plein niveau diplomatique.
Oui, Napoléon III n'était pas en forme quand même. Parce qu'il a déclaré la guerre,
oui,
et alors que...
Mais c'est pas... Non, c'est beaucoup complexe que ça. C'est beaucoup complexe que ça. C'est beaucoup complexe que cela. Donc, dans le bouquin d'histoire, on voyait donc le chancelier de phare, une photo plutôt, c'était des photos de l'époque ou des tableaux, avec un casque à pointe. Ce casque à pointe, c'était pour protéger la tête, bien sûr.
Du sabre.
Et la pointe, simplement, était faite pour dévier le coup de sabre.
Oui, c'est ça.
On ne perdait pas la tête comme ça. Et les artilleurs, ils avaient la place de la pointe, ils avaient une boule, que ça évoquait le canon ou les balles, et en même temps, ça déviait aussi les coups de sabre. Voilà. Donc, il est normal que nous ayons eu pendant des générations la photo de cet homme qui vous regardait avec ses yeux gris-gris-bleus, pas commode, un peu un vieillard quand même, d'1m90 et des poussières.
Oui, c'était un géant quand même.
Oui, c'était quelqu'un de haut, de corpulent. Il venait du Nord. Et oui, il ne faut pas oublier les origines. Et puis donc, on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce qu'il avait fait à 5 ans, qu'est-ce qu'il avait fait à 10 ans, qu'est-ce qu'il avait fait à 20 ans.
On va parler de son enfance,
qui étaient ses parents, son épouse, qu'est-ce qu'il avait fait avant d'être coiffé d'un... Ben oui, il est né le 1er avril 1815, et la photo montrait quelqu'un... photographié généralement en 1870.
Il y a quelqu'un d'âgé, oui.
Donc,
oui, oui.
Il y avait un gouffre entre ces deux dates. Et c'est très facile, après, donc, de coller une étiquette, ce qui est normal et humain, je dirais.
Oui, mais pour nous, Français...
Et c'est ça, pour c'est nous,
c'était... Comme ils nous avaient humiliés un peu, donc on avait ce côté...
Tout à fait, ce qui est normal, c'est normal. C'était le méchant qui nous avait humiliés... Mais peut-être si on avait bien regardé l'histoire, on se serait aperçu que on s'était un peu cherché cette humiliation. Et oui, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que ce n'était pas un militaire, Bismarck.
Non, il n'était pas militaire. Il était politique, mais pas militaire.
Ce n'était pas parce qu'il avait un uniforme que c'était un militaire. Oui. On veut dire qu'il avait fait carrière dans l'armée.
Mais pas du tout, d'accord.
Pas du tout.
Oui. Alors qu'on le représentait comme un type armé, quoi, en fait.
Un type armé, oui, comme quelqu'un armé d'un sabre.
Oui.
Voilà, c'était l'uniforme de l'époque. Comme certains avaient un colt et tout ça, voilà. Donc, 1er avril 1815, c'est une date importante, 1815, c'est qu'il est né à quelques mois avant Waterloo, où les Prussiens nous ont battus avec l'aide un peu des Anglais.
Il avait quand même une haine des Français à cause des guerres napoléoniennes.
Voilà, alors c'est l'histoire. C'est
voilà.
Après la Révolution, il faut remonter doucement, tranquillement, sans pas tout mélanger. Il faut remonter à l'histoire, la Révolution française, qui a apporté beaucoup de choses nouvelles, de nouveautés et tout. Un monde nouveau, on ne va pas y revenir. Mais ensuite, nous avons eu Napoléon Ier. Et Napoléon, on savait, il aimait passer les frontières.
Et donc, il voulait une grande Europe.
Voilà, il voulait une grande Europe. Tout dépend ce qu'on entend par le mot Europe. Et donc, on a envahi, on voulait aller à Moscou, on est allé en Russie. Et déjà à la Russie.
Ça commençait déjà.
C'est pas d'aujourd'hui. Il faut maintenant reprendre ces bouquins d'histoire, essayer de comprendre pourquoi certains veulent s'étendre. C'est pas nouveau. C'est pas un coup de folie. Voilà. Et puis donc, entre la Russie et la France, il y avait l'Allemagne, qui n'existait pas.
Non.
C'était des territoires, c'était très morcelé.
C'était plusieurs territoires germaniques.
Beaucoup de territoires allemands.
Mais
beaucoup.
Pas du tout l'Allemagne. Parce que c'est Bismarck qui avait fait l'unité de l'Allemagne.
Il voulait faire. Et puis surtout, il y avait la Prusse.
Et ils étaient très forts, la Prusse.
C'était un
empire quand même particulier.
Mais ils sont partis de rien du tout. Même pas la taille de deux départements français.
Un petit territoire.
C'était mini. Donc pour eux, il fallait se battre parce que les voisins voulaient manger l'autre. Ils étaient infimes, donc il fallait se battre. Et puis, il a fallu peut-être pour eux...
Ils avaient quand même une stratégie importante.
Pour eux, c'était une question de survie parce qu'ils s'étaient entourés. Et ça a été là le début de cette hantise allemande. D'être coincé entre la France, pays très difficile à comprendre, et la Russie, pays très difficile à comprendre aussi.
Ouais.
Il y avait aussi la Pologne. Et donc, ils se sont retrouvés là, ces petits Prussiens, et puis tout doucement, par des héritages, par des mariages. Une branche est originaire de Souabe, c'est-à-dire le Sud. Et puis par des mariages, par des héritages, ils ont hérité
de territoires
dans le Brandebourg, vers Berlin, tout là-haut, dans l'Est. C'est l'histoire qui a formé tout ça. Et ils ont compris qu'il fallait s'armer s'ils voulaient survivre. Parce que le territoire était pauvre, il y avait du sable, des pins, de l'eau, du sable, c'était très pauvre. Il a fallu attendre le 14e, un peu le 15e siècle, pour des raisons de religion, révocation de l'édit de Nantes. Ça, c'est pas la faute des Allemands, des Prussiens.
C'est la faute des Français.
Il faut le rappeler, tous ces protestants à qui on interdisait de célébrer leur culte,
ils n'avaient plus le droit
de quitter la France.
Oui. Ou alors il fallait se convertir au catholicisme.
Voilà, donc, voilà, tout à fait. Donc cela veut dire que...
Donc ils ont suivi la France.
Ils ont pu partir, ils ont parti. Beaucoup de pays étrangers
ils sont partis,
les ont accueillis. Ils ont été exilés. Ils ne sont pas partis comme ça, ils ont été exilés. Ce n'est pas la même chose, on ne revient pas. L'Angleterre en a reçu, accueilli, un peu ce qui est maintenant la Suisse un petit peu aussi, la Hollande, ce qu'on appelait les Pays-Bas, et puis la Prusse aussi, parce que la Prusse, c'était un pays déjà de valeurs, on parle beaucoup de valeurs républicaines maintenant, ben, c'était un peu les valeurs de la Prusse, la tolérance, la liberté, l'accueil, donc la tolérance. On pensait, selon la religion, donc ce n'était pas la religion de celui qui commandait, mais donc on a accueilli ces protestants, ça s'est bien trouvé, on a accueilli après plus tard des jésuites.
Et puis les exilés n'étaient quand même pas n'importe qui, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient sûrement une profession, qui avaient quand
voilà,
même...
Voilà, beaucoup étaient artisans. Voilà. On a accueilli des jésuites, donc c'était des catholiques,
mais on les a très cultivés.
On les a surtout parce que c'était des pédagogues aussi.
Oui, c'est ça.
Cultivés. Oui. On peut être cultivé et pas être pédagogue. Donc il y avait les deux. Et puis tous ces artisans et beaucoup de militaires aussi, beaucoup d'officiers sont partis. Et c'est eux qui ont formé un peu l'armée, pas allemande, mais l'armée prussienne.
Ah, oui,
le vocabulaire militaire allemand.
À des bases françaises.
À des mots, pas des bases, mais des mots.
Oui, des bases.
Beaucoup.
Oui, des mots,
non, pas des bases, des mots, des mots. Caserne, général, tout ce que vous voulez. Ça vient de là. Nous avons importé notre savoir-faire. Et donc, cette Prusse a grandi, s'est agrandie bon, par des guerres. Eh bien, oui, les rois de Prusse, évidemment, se battent pour le roi de Prusse. C'est-à-dire, il y a plusieurs interprétations. Hein, où les soldats étaient mal payés et on se battait presque pour rien. Ou alors, les monarques prussiens pouvaient déclarer une guerre sans y participer.
C'est ça, et retirer les marrons du feu.
C'était déjà un peu de politique. Ce sont un peu les ancêtres de la géopolitique. Hein. Bien avant nous. Il a fallu Richelieu, le cardinal, pour se rendre compte que tout ce territoire de l'Est qui était germanique, prussien et tout, il fallait bien garder une Allemagne morcelée de façon à ce que...
Puisque ça grenouillait beaucoup.
À ce qu'ils ne se réunissent pas et deviennent un danger pour la France. Oui. C'est ce qui passait plus tard, après la Révolution. Ils avaient raison.
Il avait senti le danger.
Il avait compris, voilà, Richelieu. Donc, beaucoup... Les historiens, aussi bien français qu'allemands, ont souvent comparé, ça fait sembler curieux, et ont comparé Bismarck avec Richelieu. A priori, ce sont deux personnalités très différentes.
Très différentes, oui.
Et en réalité, c'est ce que De Gaulle aimait beaucoup chez les deux, il y avait beaucoup de similitudes dans le caractère, dans la vision des choses. Ils vivaient avec les cartes toujours. Ils passaient le matin, les deux, dans la Kartenzimmer, la salle des cartes.
Oui.
Dans la salle des cartes, et ils étudiaient le devenir de l'Europe et après de la du Nouveau Monde. Parce que la Prusse était toujours très intéressée, plus que nous.
C'était visionnaire.
Même si on a participé à la guerre pour aider les jeunes Américains contre les Britanniques, la Prusse a toujours envoyé beaucoup d'observateurs pour voir, et même pour aider les jeunes Américains. Voilà. C'est pour ça que l'armée américaine aussi a beaucoup hérité de la Prusse. Voilà.
Bon, alors, on en était. Alors, Bismarck, qui était petit. Alors, il a été élevé par.
Donc la famille, les parents. Charles Guillaume Ferdinand.
Son père.
Von Bismarck. Mmh. De Bismarck, qui était un officier, qui avait combattu, comme pas mal de ses hommes, qui avait combattu contre les armées d'invasion, c'est-à-dire les Français.
Oui, bien sûr.
Et oui, on fait un retour sur l'histoire. Donc, et ça marque quand le père racontait tout cela à ses enfants, au petit Otto.
D'où la haine des Français,
une certaine haine, mais bon, on ne les aimait pas parce qu'ils avaient pénétré dans le pays et les soldats du maréchal Soult C'est un peu la soldatesque, c'est un peu ça. Ils avaient brûlé des granges,
ah oui.
Ils avaient embêté les gens, ils avaient saccagé les récoltes.
Ils faisaient la guerre, ils faisaient la guerre.
Ils étaient passés, voilà. Ben ouais. Oui, les armées avaient traversé le domaine pour aller plus à l'est. Lors de la bataille de Iéna, en 1806, 14 octobre 1806, qui a été une catastrophe pour la Prusse, mais en même temps, ils ont su rebondir et devenir ensuite très forts. Voilà. Donc, les Français, mais Bismarck, très tôt, a compris que la France tenait un rôle important en Europe, et donc il fallait apprendre sa langue. Il était très doué en langue, latin, anglais, et français, et un peu de grec aussi, qu'il n'aimait pas, et un tout petit peu de russe aussi, on ne sait jamais, il voyait loin. Et puis, c'était donc le père, il a quitté l'armée après parce qu'il s'est mis à la retraite. Il est devenu propriétaire terrien.
Oui, ils avaient des grandes propriétés.
Il avait
oui.
des grandes propriétés. Comme là-bas, c'était un peu le pays. Le pays, c'était un peu en retard par rapport à la France. Il n'y avait pas eu la Révolution française. Et il restait un peu, c'était un petit peu médiéval. Il y avait les grandes terres, il y avait les paysans, il y avait le seigneur.
Mais les vrais propriétaires terriens, en fait.
Et oui. Et le servage a été quand même supprimé en Prusse, après.
C'était des hobereaux.
Alors là, ça, c'est autre chose. Les hobereaux, ce sont donc les propriétaires terriens.
C'est ça. Oui.
Les Junkers. Junkers, ça veut dire les jeunes hommes, littéralement. Ce sont les jeunes nobles qui entraient dans l'armée, mais à condition qu'il reste simple soldat.
Ah, il est donc d'accord.
Simple soldat. Pas parce qu'ils avaient la particule qu'il fallait automatiquement qu'ils soient officiers. Ils étaient simples soldats pour être au premier rang, pour voir un peu par humilité. Et ensuite, selon leur mérite, ils prenaient du grade. Mais ils arrivaient comme simples soldats. Voilà, on ne la ramenait pas, si on peut dire. Voilà. Et la maman, Wilhelmine Mencken.
Bon, elle était très bourgeoise, elle.
C'est la fille d'un homme politique, on dirait aussi homme politique et universitaire aujourd'hui. Elle faisait partie de la haute bourgeoisie, alors que le père faisait partie de la noblesse.
Une petite noblesse paysanne, oui.
Et avec la mère, et puis le caractère d'Otto, ça n'a jamais bien fonctionné. La mère était très dure, mais elle lui a quand même inculqué, on va dire, un certain amour de la nature.
Oui.
Le père aussi.
C'est vrai qu'il était proche de la nature.
Voilà.
Parce qu'il avait des grandes promenades à cheval.
Voilà.
Oui, c'était très proche de
sa
la
mère,
nature.
C'était important. De sa mère, il a hérité un esprit vif, plus que le père, un esprit vif, très logique.
Une certaine diplomatie, quand même.
La diplomatie et une aisance orale.
C'est ça, voilà.
Pour un homme politique, c'est important.
Très important.
Des citations et tout. Et puis, du père, donc, une certaine fierté, on tenait son rang, une certaine sagesse, et puis aussi un amour de la forêt. Là, le père a l'amour de la forêt.
Mais le père adorait ses enfants.
Il adorait les enfants. Mm-hmm. Il y avait donc Bernard l'aîné, qui a fait une belle carrière. Il y aurait eu un autre enfant, mais ce petit bébé, si on va dire, était mort étouffé par un haricot. Ça fait rire, mais par un haricot qu'il avait pris pour un bonbon.
Un bonbon.
Mmh. Il avait cru que c'était un bonbon, et puis c'était un haricot, et dans la nuit, il est mort.
Mais ça ne passait pas.
Donc on l'a enterré tout de suite dans le jardin, puisque c'était la coutume des protestants.
Et il y avait une fille
aussi. Et à la fin, la sœur Malvina.
Il était très proche de sa sœur.
Très proche de Malvina, très proche, voilà. Donc voilà la famille. Bon, le père, ancien officier, et puis propriétaire terrien. Et la mère, plutôt de la bourgeoisie, elle, c'était la ville, c'était un peu, c'était pas le rat des villes, mais un peu, alors que le père, c'était le rat des champs. Et Bismarck, le petit Bismarck, adorait être à la campagne, avec la ferme, avec les paysans, courir pieds nus dans la forêt. Lui, c'était la liberté, ça a toujours été son refuge au sens humain.
Aimait se retirer quand même dans ses terres.
Il se retirait, et il était bien, toujours entouré de chats, de chiens.
Des dogs.
Les dogs, le couple de dogs. Les sept couples qui sont enterrés au cimetière, dans le domaine qui maintenant est enterré. Territoire polonais.
Ah oui,
maintenant, c'est fini.
C'est
la Pologne qui entretient le cimetière des chiens de Varzin, où il y a donc les 14, les 14 dogs, toujours les dogs, toujours. Les chats, et puis les oiseaux, les rats, etc., les écureuils. C'est un homme des bois, ce Bismarck aussi. C'est un homme Bismarck. Et donc, il a fallu aller à l'école, et à l'époque, c'était dans la noblesse.
Dur.
C'était un peu comme ça, comme chez les Anglais aussi.
Pareil, oui.
Dès l'âge de 6 ans, on l'a mis en pension à Berlin.
À Berlin, oui.
Bien sûr que c'était dur, mais la mère et le père a approuvé, parce qu'il fallait en faire un homme. Il ne fallait pas faire un pleurnichard, si on peut dire. Et la mère l'a mis là-bas, en pension, à Berlin.
Et il fallait qu'il soit formé là-bas.
Formé. Voilà. Et... Alors, c'était très
peut-être
difficile.
Un peu de dressage, on avait l'impression, là-bas.
Il y avait un peu tout. Alors, c'était très difficile. C'était à l'Institut Plamann. À Plamann, c'était surtout pour la bourgeoisie prussienne.
Il fallait déjà y rentrer, il fallait avoir les moyens, déjà.
Voilà. Et puis mais l'aristocratie était très mal vue. Très mal vue. C'est ce qu'on pense le contraire. L'aristocratie, les fonds, les deux étaient très mal vus. Donc, comme il était von Bismarck,
bien sûr.
Eh bien, il a beaucoup souffert. Les brimades, il a souffert, il s'en a rendu compte.
Mais c'est peut-être ce qu'il a endurci.
Alors, il a dit, il s'est dit, il faut m'endurcir et tout, vis-à-vis de papa et maman, surtout de la mère. Il ne se comprenait pas, mais par fierté, ça s'est tiré du père. Eh bien, il a supporté la nourriture qui était vraiment presque infecte, les conditions, les douches glacées. Le matin, quand on se levait en hiver,
chaude, hein.
Il fallait aller chercher, casser la glace.
Et les chambres n'étaient pas chauffées.
Les chambres n'étaient pas chauffées. Et puis, on vous réveillait à coups de rapière, pas le tranchant, mais la lame.
Vous traîniez un peu dans le lit, allez hop.
C'était très brutal. C'était très dur, certains...
Et on imagine un petit enfant de 6 ans avec un tel traitement,
oui.
Maintenant
Maintenant, ça serait une révolution. Les Grecs, à Sparte, ils faisaient pareil dès l'âge de 7 ans. Ils récupéraient tous les enfants pour en faire des guerriers, pour en faire des hommes, si vous voulez. Et les Britanniques, c'était pareil.
Dans les institutions britanniques, c'était pareil, oui.
Et plus tard, ils remercient les parents qui les ont emmenés là. Bien sûr, c'est dur, 6 ans.
Le prince Philippe, c'est ce qu'il a connu.
Il a connu ça à Salem, au bourgade de Constance.
Oui, c'est ça. Oui.
Et comme les nazis voulaient fermer la boîte, il s'est retrouvé en Écosse. Et bon, ça allait bien pour son tempérament. Mais le prince Charles, il a dû le faire, il a subi. Parce qu'il n'était pas, tourné vers les arts. Ce n'était pas le même tempérament aussi. Il faut voir les tempéraments des gens aussi.
C'est ça, des hommes.
Et puis Bismarck, donc, il est resté à l'Institut Plamann. Il est entré en 1822, et puis ensuite, il est resté jusqu'en 1827. Et il refusait beaucoup l'autorité. C'était un peu un garnement, déjà.
Rebelle.
Il avait du caractère. Il était dur, mais en même temps, il pouvait être très gentil. Il fallait savoir le prendre. Là-bas, ce n'était pas la question. C'était un peu... C'était l'exercice. C'était le drill, comme on dit. C'était le dressage.
On en vient là.
Et surtout, étant de l'aristocratie, il en a pris encore plus.
Ah oui.
Et oui. Et on rentrait à la maison pour les grandes vacances, un petit peu pour Noël... Et un tout petit peu pour Pâques. Pour les grandes veilles. Donc, ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas très, très long. Donc, et puis aussi pour les grandes vacances. À la grande vacance, les parents et la mère, surtout, allaient prendre les eaux. Donc, c'était très mondain. Donc, le petit Bismarck, avec sa petite sœur, il ne restait pas avec papa et maman. Il restait au domaine.
Gardé par des nounous.
Des nounous, les paysannes.
Si, pour eux, c'était des nounous, peut-être.
Oui, peut-être, mais enfin, ce n'était pas conçu comme ceci. Et puis, donc, il souffrait, il détestait sa mère, mais sa mère, quand même, lui manquait. Il la voyait très peu. Et ça s'est retrouvé plus tard. Par contre, le père, lui, parfois, il revenait, il pensait à ses domaines, et il sentait que le petit Otto était malheureux. Ça l'a dressé sur le plan moral, c'est pour ça que c'est quelqu'un... En réalité, c'était quelqu'un d'hypersensible et d'écorché vif. Mais ça, les gens le comprennent différemment, ils ne vont pas gratter. ils regardent l'étiquette et puis c'est tout. Ils ne savent pas que sous cette étiquette-là, il y en a peut-être une deuxième en dessous qui est collée.
Ah oui, ben, finalement, c'est un peu son cas. Parce que...
Et alors, 1827, le lycée...
Au lycée, ça va mieux déjà.
Il va passer au lycée. Au lycée Frédéric Guillaume de Berlin, 1827, tout le monde n'accédait pas à ce lycée. Tout le monde n'accédait pas. C'était selon les résultats.
C'était un peu l'élite.
On peut dire selon les résultats scolaires.
Oui,
voilà.
Oui.
Et puis 1830, il est admis au lycée berlinois. Traduit en français, du cloître gris.
Cloître de gris, oui.
Ça, c'était... Bon, il n'existe plus. Il est parti sous les bombardements 45 de l'armée soviétique. Ce fameux lycée où il a noué des amitiés pour la vie.
Oui.
Qui se retrouveront plus tard.
Tout le temps, oui, c'est vrai.
Et là, il a pu beaucoup travailler. Et il faut dire qu'il a eu la chance d'avoir un professeur.
Bonnel.
D'avoir un professeur, un huguenot, c'est-à-dire d'origine
française.
Monsieur Bonnel. En allemand, B-O-2-N-E-2-L, alors que c'était Édouard Bonnel, qui était originaire des Cévennes. Et donc, ce monsieur Bonnel a vu...
Il a pris sous son aile, quand même.
Il a vu que ce petit garçon...
Il a eu beaucoup de capacités, quand même.
Il pouvait beaucoup faire. Bien, alors, il a décidé de le prendre sous son aile. Et voici le compte-rendu d'un rapport de monsieur Bonnel. Mon attention fut attirée par Bismarck le jour de son arrivée au lycée Frédéric Guillaume à Pâques en 1827. Cela, je l'ai su plus tard et souvent raconté du fait que ce souvenir subsiste encore en moi. Assis bien sage à sa place, visiblement de bonne humeur et éveillé, avec un bon visage de petit garçon, il sortait du lot avec ses yeux vifs et son maintien. C'est alors que je pensais aussitôt, voilà un bon petit, je vais le prendre sous mon aile. Il fut mon élève en latin après la classe de seconde. À la Saint-Michel, le 29 septembre 1829, je fus nommé au lycée du cloître gris de Berlin et Bismarck y fut inscrit l'année suivante. Au mois d'octobre 1831, il prit pension chez nous, dans la rue du Fossé-Royal au numéro 4. Une fois installé, il se montra bien élevé, s'adaptant aisément à notre tranquille façon de vivre, adoptée par mon épouse, notre petit garçon, d'un an et moi-même. Le soir, il ne sortait presque pas. Il lisait ou travaillait. En toute occasion, il était agréable et gentil. Lorsqu'il m'arrivait le soir de sortir, c'était rare, il restait avec mon épouse, dialoguant et écoutant. On sentait qu'il aimait le confort, l'atmosphère, la chaleur, et la simplicité de notre foyer. Il s'y sentait bien et, je pense, en avait sans doute besoin. Il nous avait littéralement conquis. Futur casque-à-pointe.
Il avait trouvé une famille de substitution, quand même.
Voilà, c'est ça. Il lui fallait le hasard. Il y avait Monsieur Prévost aussi, un autre huguenot.
Oui, c'est ça.
Les huguenots, souvent, se retrouvaient dans l'enseignement, l'artisanat, l'armée, les juristes. On dirait aujourd'hui, c'était une élite protestante qui avait dû quitter la France à regret.
Oui, oui, oui.
Et qui ont, là-bas, ils avaient utilisé les compétences.
Oui, oui.
Hein, c'est comme ça que ça marchait. D'où beaucoup de noms français, même si je me rappelle quand j'étais en Allemagne du Nord, au lycée où j'enseignais, j'avais des deux ceci, des deux cela.
Oui, ils avaient gardé la particule.
Il y en avait mis la particule allemande, mais d'autres familles avaient tenu à garder la particule 2. Et plus tard, malheureusement, on les a retrouvés dans l'armée prussienne, en face de nous, et ce n'étaient pas les plus doux. Les plus doux, parce qu'ils reprochaient toujours un peu notre pays de les avoir fait partir.
De l'ennemi de Nantes était toujours présente.
Mais eux avaient su rebondir. Voilà, donc, merci, Monsieur Bonnel, d'avoir su... prendre le petit Bismarck.
Il avait découvert des qualités insoupçonnées de ce petit garçon.
Voilà.
Donc, alors après, on avance.
On avance.
Donc, quand il est au lycée...
Il est bachelier.
Voilà.
Oh, il sait pas trop. Alors, M. Bonnel, c'était un peu son professeur principal. C'est lui qui avait écrit les conseils pour une nouvelle vie. Il lui avait dit qu'il était capable, mais qu'il faisait ce qu'il voulait déjà. mais qu'il faudrait quand même travailler. Il avait les moyens, mais bon, l'autre n'avait pas écouté vraiment et puis se fichait un peu des conseils du bon Édouard Bonnel. Et après, oui, c'est un peu ça. Et après, eh bien, il est allé, il voulait faire des études et son père lui avait dit, le droit mène à tout, tu feras un peu, il te faudra faire du droit, même pour tenir un domaine, etc.
Oui.
Voilà. Et pas question d'armée, il n'est pas du tout militaire, ça ne compte pas.
Hein,
ça ne compte pas. Et donc, 1832, il commence des études de droit à Göttingen.
Mais il était quand même sensible et romantique.
Il était sensible, bah oui, bah c'est très germanique ça. Très sensible, romantique, sous un regard un peu froid et une certaine austérité due peut-être au physique des gens du Nord. Ils ne vont pas vous taper sur le ventre tout de suite, ils ne vont pas rigoler comme ça.
Oui.
Ils vous regardent.
C'est pas de la, que n'est la meilleure amitié d'ailleurs, c'est vrai.
Non, non, c'est une sorte de... Pas de distance, mais
non, il faut prendre ses mesures.
On prend ses mesures. Études de droit à Göttingen, qui était une université célèbre. Il est resté un peu une petite année. Hein. Bon, il a surtout fait la fête, la Java, on va dire. On se battait en duel à l'époque, c'était la tradition. On buvait sec, on fumait sec.
Ah, lui, il a bien bu, bien mangé.
Il a bien vécu, oui. On ne fait rien. Et pour ses examens, il engageait un répétiteur, on va dire.
Pour rattraper.
Et à rattraper. Et bon, disons, quelques semaines avant l'examen, la Java était finie. Et on se mettait à bosser et on décrochait les précieux parchemins. Puis ensuite, il est allé à Berlin, parce que Berlin, c'était Berlin. Et puis aussi, c'était la ville que sa mère aimait. C'était la ville où il avait été heureux au lycée.
Mais c'était la grande ville, en plus.
C'était la grande ville. Et puis, il a passé 3 ans d'études. 1835, il voulait faire la diplomatie, parce que sa mère lui avait dit plus tard, mon fils, tu seras diplomate. La mère avait senti, elle avait une intuition féminine très tôt, ça arrive, elle avait senti qu'il serait...
Finalement, elle connaissait bien son fils.
Elle le connaissait bien,
oui.
Et peut-être qu'ils avaient un peu le même caractère.
Sûrement.
Donc, cela explique peut-être les étincelles.
Oui, c'est ça.
Les étincelles, donc...
Quand ils se confrontaient l'un à l'autre, voilà. ça devait pas être facile.
Il avait rencontré des professeurs d'université, en Sillon, par exemple, en Sillon, encore un huguenot, qui lui avait dit, oui, il faut commencer, vous devrez, avant de prendre la diplomatie, pourquoi pas la fonction de juge suppléant. Il faut commencer au bas de l'échelle, puis après on verra. Donc, il a été juge suppléant à Berlin, et puis ensuite, il s'est retrouvé à Aix-la-Chapelle.
Moi, je vais revenir sur son côté un peu romantique, parce
oui.
que c'était un personnage aux mille facettes, quand même. Hein.
Aux mille facettes, comme a dit le peintre von Lenbach, c'était mille facettes. Il y a la dombe aux mille étangs, Bismarck, c'est aux mille facettes.
Voilà.
C'était pas facile.
Il écrit « Ô nuit, ô tempête, ô obscurité, vous avez un visage sévère et pourtant digne d'être comme la flamme de l'œil noir d'une femme. Nuit magnifique. » Tu n'as pas chargé de ce message de sommeil. Laisse-moi partager ton plaisir sauvage et splendide. Donne-moi une partie de la tempête et je suis à toi.
Voilà.
C'est tout Bismarck.
C'est tout Bismarck.
Oui, oui.
C'est tout Bismarck.
C'est quand même incroyable.
Les lectures aussi. Beaucoup de...
Oui, et c'était, c'est ça. Oui.
Les lectures, donc les classiques allemands, bien entendu, mais aussi anglais, Shakespeare. Les poètes anglais.
Et tout dans le texte.
Tout dans le texte.
Voilà,
ah, oui.
C'est ça.
Montaigne. Il aimait beaucoup Montaigne, Voltaire, Rousseau, mais surtout Montaigne, c'était pas sa Bible, mais presque.
Oui.
Et puis aussi, la Bible aussi, on y reviendra. Mais c'était et quand il s'est retrouvé dans le droit, bon, ça ne l'intéressait pas. Il a dû avaler des lois et des textes juridiques.
Oui, oui, ouais.
Mais une fois qu'il a tout balancé, il a pris plutôt des livres, on va dire, des ouvrages d'économie politique pour administrer les domaines, etc., etc. Donc, il avait quitté la carrière administrative.
Voilà,
il aurait pu monter parce qu'il était doué, mais il s'ennuyait comme un rat mort, on va dire. En 1839, il a quitté la carrière administrative. Il est parti à sa guise. Vendredi soir, il a dit à l'huissier, vous direz à Monsieur le Président que lundi, je ne serai pas là,
je ne reviendrai plus.
Et il est parti. Et puis, on s'est retrouvés à Kniphof, à la Schönhausen, les domaines de Prusse. Ces domaines qui se trouvaient pas loin d'une ville que nous connaissons en France, mais différemment, la ville de Stendhal.
Oui.
S-T-E-N-D-A-L.
D'où le nom qui a été repris par Henri Bell.
Henri Bell, qui était commissaire aux armées de Napoléon Ier. Et qui avait séjourné à Stendhal, et il avait beaucoup aimé cette petite ville du nord, très bien,
bien arrangée. C'est pour ça qu'il avait pris ce pseudonyme.
Stendhal, oui. Il avait rajouté un H, on dit, pour faire un peu plus allemand, pour la prononciation. Voilà. Stendhal, ouais. Voilà. Donc Stendhal, c'était une très belle ville, et Schönhausen faisait partie du district, de l'autre côté de l'Elbe, de Kniphof. Voilà. Et donc, il va s'établir comme gentleman farmer, on va dire.
Oui. Hein,
au bureau. H-O-B-E-R-E-A-U, le Junker. Et puis, il va mener la vie de joyeux célibataire.
Oui.
Mais il va administrer quand même, peu à peu, il va se rendre compte que...
Mais il fallait administrer toutes ces terres. Oui, c'est ça.
Et puis là-haut, il pleut souvent. Ça rappelle un peu la Hollande. Donc... comme c'était quelqu'un quand même qu'on respectait, qu'on le traitait de fou parce qu'il avait une vie débridée, il faisait la fête, il était autoritaire, il se battait en duel, il buvait sec.
C'était un ogre,
il dévorait, il n'avait aucune hygiène alimentaire, ce qui lui coûtera la vie plus tard avec l'alcool et tout. Et ben oui, c'était quelqu'un d'impossible pour une vie à deux. Pour la vie de tous les jours, il était célibataire et il faisait la fête. Mais un beau jour, et peu à peu, comme il était quand même pas idiot, sa vie pour lui, c'était les grandes cavalcades en solitaire dans la forêt, les heures de natation pour calmer les nerfs, et puis
ça le maintenait en forme d'ailleurs tout ça.
Oui, et puis la nuit, la solitude dans les châteaux. Où il n'y a pas très peu de chauffage à part la cheminée, les rats qui bouffaient un peu les rideaux et tout, l'entretien laissé à désirer, et puis les fins de semaine, on invitait les copains, on veut dire aujourd'hui, les ripailles, on faisait la java, et le matin, on se retrouvait la tête un peu lourde, et dans la solitude, dans le froid... Et ça menait pas à grand-chose.
Non, c'est ça. Mais il s'en est rendu compte quand même.
Voilà, ça menait pas à grand-chose. Et bon, et puis peu à peu, eh bien, comme il était connu et qu'il avait des paysans un peu sur ses ordres, encore des métairies, il était très aimé, mais il voulait pas le montrer. Et quand il a changé de domaine, qu'il est revenu à Schönhausen après Kniphof, ses domaines étaient maintenant en Pologne, tous ces domaines-là, sauf Schönhausen qui est en Allemagne, mais les autres étaient de l'autre côté. C'était donc, maintenant, il faut prendre prendre la carte de Pologne.
C'est ça, pour retrouver
tous les noms polonais. Mais enfin, il y a des sites polonais qui sont très bien faits. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Il s'ennuyait. Et puis, un beau jour, quelque chose s'est passé.
Voilà.
Il avait des amis, des phones. Il a rencontré un ami, un condisciple du lycée allemand de Berlin.
Qu'il avait gardé depuis le lycée, qui était
von Blankenburg.
C'est Maurice.
Et Maurice von Blankenburg, et puis qu'il m'a fait connaître d'autres personnes, d'autres von, dont von Taden, Triglaf. C'était une grande famille aussi, il y a encore des descendants de nos jours. Et il avait un peu, le Bismarck avait un peu pris du champ, pris de la distance vis-à-vis de la religion, on va dire. Bon, il était luthérien, protestant.
Mais il a été élevé dans la religion luthérienne.
Il lisait la Bible, la famille, on chantait les chorales de Bach et tout. Mais il avait pris un peu de champ, mais il a rencontré ces familles,
C'était un cercle
et qu'on appelait le piétisme.
Ah, le piétisme.
Alors, le piétisme.
Ah oui,
alors le piétisme,
c'est quand même curieux.
C'est assez curieux.
C'est basé sur la piété.
C'est un mouvement important, religieux protestant, qui a été fondé par un Alsacien, le monde est petit, un nommé Philippe Spener, je prononce à la française Spener, 1635-1705, c'est un pasteur luthérien qui était fixé à Francfort sur le Main. là où il y a la banque européenne, et puis est connue pour ses saucisses. Voilà.
Oui.
Et alors, plus tard, il avait ce pasteur voulait un petit peu réformer tout ça par des collèges de piété. C'est-à-dire, ces collèges, c'était plutôt des réunions où on se retrouvait
autour... Ah, c'était un peu un entre-soi.
Un petit peu, entre la Bible, on se retrouvait entre soi, on lisait, on commentait la Bible, de façon à avoir une plus grande piété. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de tentations, et voilà... Donc, une plus grande piété. Et ce Spener, il a insisté sur la nécessité d'une piété personnelle, de se faire un peu sa propre religion.
D'accord.
En se basant toujours sur la Bible,
oui,
pour avoir
restait,
un sentiment,
restait, oui,
un sentiment
la base, oui.
religieux individuel qu'il préférait à la connaissance orthodoxe et stricte. Il préférait que cette religion soit adaptée à chaque individu. Et cela, Bismarck, ça l'a intéressé. Il se rendait compte qu'il était original, dans le bon sens du terme,
oui.
qu'il n'était pas comme un mouton, qu'il avait une forte personnalité. Donc, il lui fallait aussi un rapport à la religion qui soit aussi un rapport assez fort aussi. Chez lui, rien n'était mièvre.
Ah oui, il n'y avait rien de trop doux.
Voilà,
oui,
donc il lui fallait quelque chose de dur et qui sorte un peu des sentiers battus. Et avec ses amis, les faunes, bon, il y avait des seigneurs et puis il y avait l'élément féminin aussi. Et il est tombé amoureux de la fille de Adolphe de von Taden. Et seulement, elle était déjà fiancée à son ami
Maurice,
l'ami
et,
Maurice.
Et lui, il est tombé très amoureux de cette Marie.
Ah oui, ça a été la révélation, le grand amour qu'il n'oubliera jamais. Et donc, Marie, ils se sont compris, mais lui est resté à sa place, puisque son meilleur ami était le fiancé, et ce sera le mari de notre Bismarck. Et donc, puisqu'on parle un peu de piétisme, on va écouter un peu de Jean-Sébastien Bach,
voilà.
Un petit peu le fameux choral « Jesus bleibt meine Freude »,« Jésus demeure ma joie ».
Voilà.
Voilà. Voilà, nous retrouvons donc notre Bismarck.
Oui, voilà, c'est
Bismarck
ça.
Bismarck avec Gisèle.
Et son cercle d'amis.
Et Jean-Sébastien Bach, ce fameux choral qu'il a sûrement entendu et chanté comme
il
le
faisait.
Il
aimait beaucoup Beethoven, c'est vrai.
Voilà, ouais. Ça c'était Bach. Et puis ensuite, Beethoven est venu.
Il aimait beaucoup Beethoven.
Beethoven,
oui.
Qui était plus proche peut-être, qui évoquait la nature. Et... Bach était vraiment celui qui marquait, c'était le piétisme, et puis cette religion qu'il a retrouvée, cette foi, qu'il a retrouvée, oui. Une foi personnelle.
Quand il a été dans ce cercle-là.
Dans ce cercle-là,
oui,
c'est très curieux.
Il l'avait perdu
voilà.
Un peu. Ouais,
si,
ouais.
On veut comprendre, Bismarck, il faut comprendre ce passage, cet épisode religieux qui n'est pas forcément facile à piger, à comprendre.
Mais oui.
C'est pas facile. Il faut comprendre, il faut faire un peu d'histoire de la religion aussi. Sinon, on ne comprend pas. Bon, on se dit, voilà, c'est un sanguinaire, il a fait la guerre. Oui, d'accord, c'est pas simple. Rien n'est simple.
Oui, mais c'est vrai qu'il avait de multiples facettes.
Il
avait de multiples facettes
et il avait un but qui s'est affiné pendant ces périodes de solitude, de la géographie. Il était passionné avec les cartes. Il voyait cette carte de la Prusse et il se rendait compte que leur pays était sous la domination et dans le voisinage inquiétant, pas de l'Angleterre, mais de la France.
Oui,
il se rappelait toujours Napoléon Ier. Et puis l'immense Russie, il fallait faire attention. Et eux, ils étaient entre les deux. Entre les deux. Plus tard, il a reçu, quand il était chancelier, après 71, quand il est rentré à Berlin, un explorateur, M. Weber, un géographe, est venu le voir. Il lui a dit, mais vous n'avez pas, comme les Français, les Anglais, d'empire colonial.
Non, c'est vrai, ils ont eu quand même, mais voilà, plus tard.
Mais bien plus tard,
voilà, ça, c'est
sur,
ça, oui.
Sur la pression des chambres de commerce allemandes,
oui.
Anséatiques. Mais enfin, il a dit, c'est vrai, les Anglais, les Français, ils ont un empire.
Ah, oui.
Ben moi, il lui a dit, moi j'ai mon empire chez moi.
Chez moi.
Venez dans le jardin, je vais vous faire un dessin.
C'est ça.
Et alors, ils sont descendus, et puis il a pris sa canne ou un parapluie, et puis il a fait trois cercles. Et alors, le cercle du milieu, il a dit, c'est nous. Le cercle de gauche, c'est la France.
Oui.
Et le cercle de droite,
c'est la Russie.
Et nous, on est au milieu. Donc, il faut faire attention que les deux, nos deux voisins...
Surtout pas en coalition, les deux, parce que là, on est mort.
Voilà, ne se mettent pas d'accord et nous tombent dessus.
Mais oui.
Voilà, guerre coloniale. Et l'autre n'a plus rien dit. Il a dit, mais oui, vous avez raison. Plus tard, ils ont eu bien sûr du commerce grâce aux villes de Brême, Hambourg,
oui, ça,
Lübeck.
Voilà, oui.
Là, il a fait du commerce, ça, il ne pouvait pas résister. Mais il était surtout toujours hanté. D'ailleurs, plus tard, on retrouvera la même hantise chez Hitler, puisque Hitler, à peine arrivé, en 1933, il va faire construire un réseau d'autoroutes.
Oui.
Est-ouest.
Est-ouest, c'est ça, oui.
Et oui, ouais. Est-ouest, pour pouvoir
faciliter
oui. Le transport en urgence de troupes du front russe au
front est, au front
français.
Ouest, oui, c'est ça.
Bien qu'ils aient l'autoroute Hambourg-Francfort-Bâle, verticale, ça c'est stratégique aussi, le port de Hambourg, Francfort, plaque tournante, Bâle, la Suisse, qui dit Bâle dit la Suisse, bien sûr, mais coucou, bonjour les Français.
Oui.
On pense à tout. Voilà. Donc, alors ensuite, il a décidé...
De voyager.
De voyager. Il a dit, j'en ai marre, je ferme la baraque, et puis je m'en vais. Et puis là, il a fait un beau voyage. Il est allé en Angleterre. Il parlait anglais, bien sûr, en Angleterre. Il est allé en Allemagne du Nord. Et comme il adorait la mer, surtout la mer des montées,
oui.
Il adorait se balader le soir lors des grandes marées, etc. Et il emportait sa Bible. Toujours. Et
c'était son livre de chevet, la Bible.
C'était la Bible. Ben oui, c'était comme ça. Même votre grand-mère, Gisèle, avait toujours la Bible avec elle.
C'est ça. Ma grand-mère, j'ai connu ma grand-mère, elle lisait tous les soirs sa Bible.
Voilà.
C'est incroyable.
Disons que l'Allemagne avait appris à lire dans la Bible. C'était le seul bouquin.
Moi, je crois qu'elle a appris aussi dans la Bible.
Eh ben oui.
Grand-mère, elle a aussi appris dans la Bible.
Un des premiers bouquins que Churchill a eu, c'est la Bible. C'est là qu'il a forgé son vocabulaire et son style.
Ah oui. Oui.
Revenons avec Bismarck.
Ah, voilà, c'est ça. Donc, il se promène alors.
Au bord de la mer du Nord.
Oui, c'est ça, voilà. Me promenant un jour le long de la mer, j'avais remarqué que les vagues qui s'avançaient sur la grève y déposaient toutes sortes de petites choses, des coquillages, des algues, etc., qu'elles jetaient, pour ainsi dire, par-dessus bord. Une autre vague déferlait, qui reprenait et engloutissait ce que la précédente avait déposé. Mais les rochers, eux, pourtant battus par les eaux plus violentes, restaient fermes et immobiles. Et ce spectacle fit naître en moi cette belle pensée. Les âmes faibles se laissent emporter comme les petits coquillages et les algues, tantôt affligées, tantôt consolées à la mer des ondes et à des vagues de la vie. Mais les âmes fortes demeuraient fermes et immobiles sous toutes les formes d'orage.
Voilà, c'est ça. C'est un texte superbe. Il fait allusion aussi aux Écritures. Et il se promène. Et puis, il y a une morale aussi.
C'est ça, oui, oui.
Voilà,
c'est vrai.
Les rochers.
Et ça termine, hein, parce que si on est fort, on peut résister.
Voilà.
C'est ce que ça veut dire. Hein, voilà,
c'est ça. Et il résiste. Et ce voyage en Angleterre va beaucoup l'intéresser. Et puis aussi, ça va... Et puis, il va voir du monde. Et il va réfléchir parce que il va avoir un esprit différent. Il va trouver l'âme sœur aussi en la personne de Johanna von Puttkamer, qui était l'amie, la grande amie de Marie.
Oui.
Marie qui était décédée du typhus tout d'un coup.
Ah, il a eu beaucoup de chagrin quand elle est
beaucoup
décédée.
Beaucoup de chagrin. Oui. Quand, c'était le grand amour, Marie.
Oui, oui.
Et donc après, Marie lui a dit, voilà, il faudra que tu regardes, tu jettes un regard sur Johanna.
Oui.
Elle est, voilà, tout ça. Et puis finalement... Finalement, en 1847, il a épousé Johanna von Puttkamer-Einfeld.
Ils ont formé un couple particulier.
Particulier,
parce que, mais
c'est vrai.
Assez fort.
Mais assez fort. Et pour lui, c'était vraiment, à part une exception, c'était vraiment
une petite entorse.
Une petite entorse, vous êtes gentil. Une petite entorse, mais que Johanna a pardonné. Elle aimait trop son auto.
Et son auto.
Son auto, oui, c'est ça. Elle aimait pris son auto. Et donc, et puis ensuite, alors, il a une vie différente. Et puis, il a touché un petit peu en même temps, en 1847... comme il était connu, il s'est fait élire au Landtag, disons au Parlement de Prusse
en même temps.
Ouais, on va dire un Parlement régional de Prusse. Il s'est fait repérer tout de suite parce qu'il n'avait pas son bouche.
Parce qu'il avait une autorité naturelle.
Voilà,
Finalement, quand il parlait, on l'écoutait.
1849-50, il devient membre de la deuxième chambre de Prusse. On monte. 50-51, il siège au Parlement d'Erfurt, c'est-à-dire la province de Saxe.
Oui, oui.
Donc, 51-59, il est délégué, ambassadeur de Prusse à la Diète. C'est-à-dire le Parlement.
Le Parlement,
ici, la Diète fédérale de Francfort. Donc, il étend son pouvoir, il fait ses classes. Et en 59, le voilà ambassadeur.
C'est ça.
L'empereur. L'envoie comme ambassadeur de Prusse à Saint-Pétersbourg. Voyez,
il se rapproche de la Russie.
On va voir la Russie. Eh bien oui, rien de nouveau sous le soleil. Hein.
Mmh.
Et puis en mai 62, le voilà à Paris, ambassadeur à Paris. Et il va peut-être écrire une lettre, non, quelque chose, où il a une pensée, où il parle de Luther et de Sedan.
Alors, quoi que tu fasses,
voilà,
que tu cherches à être de plus en plus juste, de plus en plus saint, de plus en plus innocent, de plus en plus divin, c'est ton affaire. Mais il est nécessaire que tu agisses dans la crainte et l'humilité et que tu redoutes toujours le tribunal de Dieu.
Voilà, la crainte de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, il est piétiste dans l'âme, hein, c'est-à-dire une austérité.
Mais ça, c'est bien les luthériens, d'ailleurs. Hein.
C'est vrai. Vie stricte, une vie intérieure très dense, très forte. Lecture approfondie et quasi quotidienne de la Bible. Le chant choral à la maison aussi. Je ne sais pas maintenant si c'est toujours pareil. Mais en Allemagne, j'ai assisté à des soirées où on lisait beaucoup et tout. Bon, peut-être maintenant, je n'y suis pas. On ne dansait pas, la danse était interdite et le tabac était prohibé.
Ah oui,
la
c'était danse, tout proscrit. Ah oui.
Pas de danse et pas de tabac.
D'accord. Alors lui qui était un gros fumeur.
Lui qui fumait comme un pompier, je m'excuse auprès des pompiers, lui, il râlait, quoi. Bon, enfin, il s'était adapté, quoi. Oui. Il s'était adapté.
Oui, mais enfin, il devait fumer en douce, quand même.
Oui, ben bien sûr.
Parce que...
Bien sûr. Et puis donc, il voyageait toujours et un jour, il a voyagé et il est allé et il a fait un repas pantagruélique. Un repas pantagruélique qui rappelait un peu nos comices agricoles.
C'est ça.
Mais c'était un peu les...
Ah non, mais... Quand...
Mettez-nous la...
Mettez-nous, ah non, mais... Voilà, je vais donner le menu.
Voilà, le menu.
Alors, huîtres d'Ostende, potage de légumes, caviar aux huîtres, pièces avec un S, hein, de bœuf de Hambourg, langoustes rémoulades, bécasses rôties, pâté de foie gras, compote et gelée, croque-en-bouche à l'ananas, glace, naturellement arrosée de vin spiritueux et cigare.
Ah, le cigare, c'est très important. Voilà,
pas des petits repas.
Non, c'était un peu comme chez nous, autant des comices agricoles aussi. Mais peut-être qu'il devait picorer un petit peu. Enfin, il avait un salut d'appétit. Pour moi, c'est un peu trop. Hein. J'aurais presque rien, moi.
Hein? Rien qu'en lisant tout ça, Oui.
Non, c'était ainsi. Ça faisait partie de... Et puis les repas diplomatiques, ce n'était pas simplement un mini barbecue. Hein. Mmh. Et c'était très important. On rencontrait les gens.
Oui,
ça n'a pas changé.
Et peut-être
discutait.
Oui, c'est ça.
La table,
oui,
on parlait,
ouais.
On discutait. des traités peut-être se préparer.
C'était comme, ça facilitait les contacts.
Comme à Vienne, le congrès de Vienne, 1815 aussi.
C'est ça, ça facilitait les contacts peut-être.
Voilà, c'était ça.
Bien
et
arrosé.
Puis Bismarck, donc, il va devenir, on l'a quitté ambassadeur à Paris. À Paris, il est resté peu de temps, 1862. Il est à l'ambassade qui est rue de Lille, 18 rue de Lille. Il y a toujours l'ambassade d'Allemagne, voilà, pas loin de la Seine d'ailleurs. Et puis il s'est mis en congé. Il est au mois de juin, juillet, il a décidé de visiter la France.
Voilà, il vient en France.
Il vient en France, il le visitait. Mais il sait qu'à Berlin, il y a beaucoup de difficultés. À la Chambre, il y a beaucoup de difficultés.
Il y a quelques problèmes, oui.
Il y a des problèmes parce qu'on veut, augmenter la durée du service militaire. Il y a des dépenses militaires.
C'est ça.
Et disons, les libéraux, on va dire, ne se
sont pas. On est en train de s'armer quand même.
Ben oui, parce que l'Europe s'arme aussi.
Voilà, c'est ça.
L'Europe s'arme aussi. Et puis lui, il voudrait quand même que cette Allemagne, que cette Prusse soit unie, soit réunifiée.
Qu'elle soit unie avec le reste des territoires allemands.
L'unité allemande, ouais, ça commençait avec l'union douanière, le Zollverein. Là, c'était au point de vue économique, c'est une petite Europe aussi. Et cette union douanière, c'est un peu le socle aussi de l'union politique.
Oui,
c'est très important. On retrouve le côté commerce, négociant et pragmatique germanique aussi. Donc, il va voyager. Bon, il va aller à Trouville, il va aller à Deauville, puis on descend. Et puis, on va aller surtout à Biarritz. On va aller à Biarritz. Et à Biarritz, il va tomber sur un couple. Il connaît le mari. C'est un Russe, un diplomate,
c'est ça,
qu'il
oui.
a déjà vu. Et il a un certain âge déjà. Bon,
il a quelques problèmes.
Il a des problèmes.
Parce qu'il il avait perdu, il était manchot.
Borgne un peu.
Oui, c'est ça.
Souvenir de guerre contre d'autres pays.
Mais sa femme était toute fraîche.
Oui, c'est bon, d'accord. sa femme plaît aux jeunes, aux diplomates allemands. Et puis, bon, c'est le boum, ça fait boum.
C'est un coup de folie.
Et puis voilà, et puis on voyage. Et puis un jour, à Biarritz, vous qui connaissez à Biarritz, ils veulent se baigner et il y aurait eu aujourd'hui le drapeau rouge. Et il manque de couler à pic. Il manque de couler à pic.
Mais parce qu'à Biarritz, sur la côte atlantique, il y a quand même ce qu'on appelle les baïnes.
Ah.
C'est des trous qui sont... c'est la mer qui les... Ça fait comme des piscines.
Oui.
Et à la marée montante,
oui.
C'est là que c'est dangereux.
Oui.
Il ne faut surtout pas... Ou alors, il faut se laisser porter par la mer, par l'océan, parce que sinon, on essaie de lutter,
voilà,
on meurt épuisé.
Voilà.
Et je pense que c'est ce qui leur est...
C'est ce qui leur est arrivé. Et alors, ils ont dû être surpris tous les deux, de pensant qu'à leur cœur et tout... Et s'il n'y avait pas eu, à quoi tiennent les choses, Pierre Fleurel, c'était le gardien du phare. Qui était en repos.
Qui les a vus en perdition
et qui a sauvé le nord de la Prusse sans le savoir. Hein, et les a sauvés, ça a été juste. Et ramener Bismarck à la côte, il était déjà costaud et tout.
C'était pas évident.
Non. Et il a sauvé donc le futur chancelier. À quoi tiennent les choses, vous voyez?
C'est ça. On n'aurait pas eu la guerre de 70.
Oui. Il est arrivé la même chose à Hitler. Hein. Hitler, tout petit, il a failli se noyer.
Aussi.
Ah oui, pareil. Même chose. Il a été récupéré de justesse.
Alors, dis donc, s'ils étaient morts tous les deux, on n'aurait pas eu ces guerres.
Il avait 4-5 ans, il était tombé dans le Main et un promeneur l'a récupéré in extremis. Il ne savait pas que c'était le petit Hitler. Ben voilà.
Oui, il ne savait pas où il allait le mener.
Et donc, il est à Toulouse, il est à Lourdes, il est à Luchon, il va au pic du Midi, Toulouse, ils vont au pont du Gard, ils vont
visite
se balader
Avignon,
au pont du
tout ça,
Avignon,
oui.
Ils vont au pont du Gard, ils traversent le pont du Gard.
Voilà, à l'époque, oui, on avait le droit.
Et puis le couple se sépare, et parce qu'à Avignon, un envoyé de Berlin, il avait, une poste restante. En tant que diplomate, c'était assuré. Donc, on lui dit de revenir à Berlin rapidement parce que ça brûle et il part aussi sec. Et donc, voilà, septembre 62, le voilà au pouvoir. Le voilà premier ministre et tout. Et donc, après mai 62, il va imprimer une politique de façon à ce que ça soit la marche peut-être forcée vers l'unité allemande, avec ses qualités de travail, de diplomatie, de charme, oui, parce qu'il savait être
son
élégant.
Son but, c'était quand même l'unité.
L'unité allemande ça, pour en finir, parce qu'il craignait trop les Français, qui étaient difficiles à comprendre, oui. Et les Russes aussi, c'est même chose. Puis les Anglais regardaient, mais c'était toujours les Anglais. Et surtout, il y avait l'Autriche en bas. Catholique. Ah oui. Donc, ça, il fallait faire attention. Donc, ça sera la bataille. Ça sera d'abord la bataille des duchés. Les duchés, le Danemark.
64.
Victoire avec l'Autriche pour les duchés.
1864,
voilà, on gagne les duchés, on installe les garnisons. Ensuite, 66 contre l'Autriche.
Oui,
voilà, l'ami d'hier devient l'ennemi. L'Autriche, victoire de l'armée prussienne inattendue. Entre-temps, depuis Iéna, les Prussiens, l'armée s'est refait comme il faut. Et puis ensuite, il y aura la marche, la guerre de 70 contre la France.
On arrive à la guerre de 70.
Avec, oui. On aurait pu prévoir que la Prusse devenait dangereuse, mais ça n'a pas fait. Et donc, on va terminer, le temps passe vite, par une lettre qu'il adresse à sa femme quand il est à Versailles, après oui. La guerre de 70, 1870-71. Là, il y a donc...
La signature du traité de Versailles.
Non. Il y a d'abord la proclamation de l'Empire allemand.
Ah oui, d'abord.
D'abord, l'Empire allemand qui est proclamé le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces,
oui,
au
Schocking,
parce que Bismarck se rappelle les dégâts amenés dans le Palatinat et Bad Kreuznach, etc., oui. Par un certain Louis XIV, et Louvois. Et donc, dans la Galerie des Glaces, on signe la naissance de l'Empire allemand. Et il est à Versailles. Voilà. Et à Versailles, un beau jour, il écrit à son épouse. Là, c'est pour découvrir le littéraire. Versailles, le 8 octobre 70. « Mon cher cœur, levé un peu plus tôt, pour une fois ce matin, j'ai aménagé dans l'hôtel particulier de Madame Veuve Gessé, 14 rue de Provence. Simple et pratique, sans éclat. Les autres ont préféré s'installer plus somptueusement. Je travaille jour et nuit, les secrétaires aussi. Je souffre de ne pas pouvoir t'écrire plus souvent. Je sais que tu t'es beaucoup inquiété pour Herbert. Il se remet près de toi. Dieu soit loué. Wilhelm est venu hier matin. Non accoutré tel son père, comme dans le bon vieux temps à Aschenhausen, il monte souvent à cheval et sans escorte. Inquiétant, on ne sait jamais avec ces coquins de Français, surtout s'ils sont en civil. Je lui ai offert hier un flacon de cognac et des cigares. C'est peu et c'est beaucoup. Nos deux fils ont fait leur devoir. Ils apprennent que la vie est escarpée et accidentée, comme un sentier de montagne. Aujourd'hui, j'ai fait faire une heure de galop à cette brave jument qui est Roschen, dans l'air tiède et calme, par les longues années droites du parc de Louis XIV. À travers le feuillage bruissant et les haies taillées, passant devant de silencieuses nappes d'eau et des divinités de marbre, endormies pour toujours. Je n'entendais rien d'humain que le sabre frottant la selle du fidèle Joseph derrière moi, et je m'abandonnais au mal du pays. Que la chute des feuilles et la solitude en pays étranger éveillent en nous avec ces souvenirs d'enfance qui ne sont plus. Voilà, Johanna, un plaisir que probablement je me procurerai maintenant tous les jours dans le parc royal abandonné par la pluie et par le beau temps pour échapper aux diplomates. Embrasse Herbert et notre petite Marie adorée. Prends bien soin de toi, ton Bismarck.
Il appréciait le parc de Versailles.
Ah, oui. Voilà. Donc, nous allons quitter Bismarck sur cette note littéraire pour montrer que... Pas du tout martial. Et puis, on espère ainsi avoir pu découvrir un Bismarck autre. Et il finira sa vie le 30 juillet 1898, veuf, entouré de ses enfants et de ses dogues adorés et regardant d'un œil méfiant de ce que feront ses successeurs après son passage sur Terre. En vous remerciant. Et merci à Jimmy. Au revoir.
Au revoir. Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.